France Inter.
Bonsoir Mathilde et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, 7 personnes mises en examen après le démantèlement d'un trafic de drogue entre le Brésil et la France. Des bagagistes et un cadre de Roissy Charles de Gaulle sont mis en cause. Comment un homme qui devait être présenté à un juge pour tentative de meurtre a-t-il réussi à s'enfuir hier soir du tribunal de Versailles? Nous écouterons les explications d'Emmanuel Leclerc. À la une également, la papeterie Chapelle d'Arblay, elle est fermée depuis 2020. Eh bien, elle va pouvoir se relancer, l'État ayant décidé d'investir 52 millions d'euros. Et puis une Américaine à Paris, à Roland-Garros, la finale dames a tenu toutes ses promesses entre la numéro 1, les numéro 1 et 2 mondiales, après 2h38 de jeu. C'est donc la numéro 2, l'Américaine Coco Gauff, qui remporte le tournoi. Enfin, nous serons à Marseille avec la semaine Slow Fashion qui a débuté pour une mode plus responsable. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, ce sera le retour du beau temps.
Oui, on aura encore quelques averses très localisées le matin, mais soleil pour tout le monde l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Voilà donc une affaire de trafic de cocaïne qui montre à quel point les organisations criminelles sont capables de s'adapter en France. Ça concerne l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les trafiquants sont parvenus à soudoyer des agents aéroportuaires, notamment un cadre intermédiaire et des bagagistes. Ce trafic qui durait depuis plus d'un an entre Roissy et le Brésil vient d'être démantelé. Bonsoir William de Lesseux.
Bonsoir Eric.
7 personnes sont donc mises en examen.
Oui, grâce à cette enquête qui a démarré l'hiver dernier, les gendarmes mènent un premier contrôle de sûreté de la cargaison d'un vol venant du Brésil.
Le Brésil étant devenu un des hubs d'expédition de la cocaïne en Europe, ces vols font l'objet d'une attention particulière.
Le colonel Cédric, à la tête de la section de recherche des transports aériens, dans le fret de ce vol des pains de cocaïne, les enquêteurs vont s'intéresser à ceux qui manipulent au quotidien ce fret et ses bagages. Leur surveillance révèle un système organisé depuis plus d'un an. Certains bagages sont repérés par les manutentionnaires.
Ces bagages ne rentrant pas dans le circuit traditionnel de traitement bagages, donc n'allaient pas sur les tapis que vous connaissez dans les aéroports, et étaient isolés pour être ensuite sortis par les sorties personnelles.
Voilà, comme ça, pas de traces. Le tout est remis aux trafiquants présumés par la suite. Les gendarmes, grâce à tous les éléments collectés, interpellent les membres présumés de ce réseau mardi.
C'est ce genre aujourd'hui de dossier que l'on cherche prioritairement de façon à stopper les flux importants de stupes qui transitent par les aéroports au-delà du sujet des mules.
Et dans cette affaire, environ 100 000 euros en liquide ont été saisis chez le donneur d'ordre présumé des bagagistes, le cadre de la société prestataire de l'aéroport dont le train de vie subitement très généreux avec ses proches avait attiré l'attention des enquêteurs.
Voilà pour les explications de William Delesseux. Lui devait être présenté à un juge hier soir au tribunal de Versailles pour tentative de meurtre. Un jeune homme de 19 ans a réussi à prendre la fuite. Il n'a pas encore été retrouvé. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et pourtant, hier soir, au tribunal, il était entouré de policiers.
Ah oui, ce jeune homme de 19 ans avait été présenté au juge des libertés et de la détention, encadré par deux policiers. Il attendait la décision, juste le temps de demander à faire un détour par les toilettes, ce qui a suffi pour piquer un sprint vers la sortie, la porte principale. En plein centre-ville, il se cache alors dans un bosquet, attend qu'un automobiliste s'arrête pour l'obliger à le déposer près de la gare de Versailles. Là, un complice le rejoint, les caméras de la ville le perdent, alors qu'il entre dans un immeuble. Depuis, ce sont des enquêteurs de la BRB, de la police judiciaire de Versailles, qui sont chargés de la traque. La victime du jeune fugitif, elle, a été mise à l'abri, victime blessée par balle en janvier dernier. C'est donc un grand classique, mais qui reste exceptionnel, ce moment où un suspect est ce qu'on appelle désentravé quand on lui enlève ses menottes dans un commissariat, un tribunal pour le cas présent ou dans un hôpital. Même s'il y a une semaine, un suspect s'était envolé, cette fois justement de l'hôpital Mono au Havre, lors d'un examen sans menottes demandé par un médecin. Un gendarme a failli être renversé par une voiture lors de la course-poursuite. Une cavale, là encore, toujours en cours.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. À Dijon, un lycéen de 17 ans a été brièvement placé en garde à vue pour tentative d'assassinat sur les réseaux sociaux. Il avait fait part de son projet de tuer une autre lycéenne. Il a finalement été relâché. Au chapitre social à présent, voilà une grande victoire. C'est ce que dit la CGT. Après plus de 5 ans de lutte, l'usine de papier recyclé Chapelle d'Arblay à Grand-Couronne en Seine-Maritime va finalement pouvoir renaître. Elle était fermée fermée depuis 2020. Bonsoir Luc Chemla.
Bonsoir.
Une victoire car l'État est finalement d'accord pour investir 52 millions d'euros dans le projet de reprise porté par Fibre Excellence. C'est une filiale française d'un grand groupe canadien.
Ah oui, via une entrée au capital à hauteur de 27 millions d'euros. Puis avec un accompagnement à travers notamment des appels à projets et aide au développement pour un total de 25 millions. En fait, c'est la conclusion d'années de combat de la part notamment des élus locaux et syndicats pour cette papeterie qui fabriquait du papier journal 100% recyclé. Car en fait, après sa fermeture et le licenciement de près de 230 salariés, un projet de reprise voit le jour. Fibre Excellence se positionne et acquiert même le site 2 ans plus tard avec Veolia. Selon les syndicats, le gouvernement de Jean Castex s'engage à l'époque à ce que l'État soutienne le projet. Mais concrètement, rien n'avance, explique Cyril Briffaut, secrétaire CGT Chapelle Darblay.
Les discussions étaient compliquées. Disons, on va dire que les promesses étaient un peu envolées avec les changements de gouvernement. En décembre 2024, l'industriel a dit, maintenant ça suffit. Ça coûte 4 millions d'euros par an de maintenir le site. Ça fait 3 ans qu'on est dessus. On nous repousse tout le temps des dates. On peut pas. On revoit. C'est surtout un géant canadien. Il dit, voilà, si la France veut pas qu'on investisse, on s'en va et puis c'est tout.
Le groupe accorde finalement un délai et vient donc d'obtenir le soutien de l'État tant attendu. À Fibre Excellence maintenant de trouver 160 millions d'euros de financement privé. Mais la CGT soulagée se veut confiante maintenant. Maintenant que l'État est entré au capital, environ 200 emplois sont à la clé et la remise en activité du site est prévue d'après les syndicats à l'horizon 2028.
Luc Chemla, service économique et social de France Inter.
France Inter, Éric Delvaux.
La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement ce soir de perturber l'échange de prisonniers prévu ce week-end, alors que Moscou vient une nouvelle fois d'intensifier ses frappes. Il y a au moins une dizaine de morts dans les deux villes ukrainiennes de Kharkiv et Kherson. Le gouvernement hongrois franchit un cap supplémentaire dans sa politique homophobe. Il vient de publier un décret interdisant l'affichage de symboles de minorités sexuelles sur les bâtiments publics. En mars dernier déjà, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban avait fait voter une loi interdisant la Budapest Pride, la plus grande manifestation du pays, en soutien aux droits LGBT+. Reportage en Hongrie de Florence Labruyère.
Avec le nouveau décret qui interdit le drapeau arc-en-ciel sur les bâtiments publics, le gouvernement Orban continue à stigmatiser les minorités sexuelles. Le gouvernement a déjà interdit aux couples gays de se marier, d'adopter des enfants, et tout cela déprime Gergely, un grand brun de 19 ans qui est en train de passer son bac.
Je crois que ça va pousser beaucoup de Hongrois à s'en aller. Pourtant, on aime notre pays, mais je ne vois pas mon avenir ici.
Cheveux rouges et piercing, Eva a retrouvé des amis dans un bar pour préparer la Gay Pride, prévue le 28 juin. La marche n'est pas interdite, mais y participer sera une infraction. La police pourra infliger des amendes de 250 000 forints, soit 600 euros. Mais pas de quoi faire peur à cette étudiante.
Tout ça n'a rien à voir avec les gays. C'est un moyen de détourner l'attention de la corruption, du vol. Ceux qui sont au pouvoir ne font rien de bon pour le pays.
Selon des députés d'opposition, Viktor Orban utilise la marche des fiertés pour mettre en place une surveillance massive. La police hongroise pourra utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier les participants.
Florence Labruyère à Budapest. Et puis en France cet après-midi, une vague de drapeaux arc-en-ciel a déferlé dans les rues de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, là où plusieurs milliers de personnes ont défilé pour la 5e marche des fiertés des banlieues. L'armée israélienne lance un appel d'évacuation dans plusieurs quartiers du nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes disent vouloir attaquer chaque zone qu'utilise le Hamas pour lancer ses roquettes. Ça concerne notamment un quartier du nord-ouest de Gazaville et un autre à Jabalia. C'est le feuilleton qui passionne les Américains. La scène de ménage entre le président américain Donald Trump et l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, patron de Tesla, ancien ministre de Trump. Les deux hommes sont en désaccord ouvert sur la ligne budgétaire des États-Unis. Et comme dans un couple qui se sépare, il s'agit de faire disparaître tout ce qui rappelle l'autre. Donald Trump est prêt à se séparer de sa voiture Tesla rouge, Loïc Loury.
En mars, mars, Donald Trump avait transformé la Maison-Blanche en concession Tesla le temps d'une après-midi, le président apparaissant aux côtés d'Elon Musk histoire de donner un coup de pouce à sa marque de voitures électriques. Je vais en acheter une parce que c'est un super produit, on ne fait pas mieux, et ensuite parce que cet homme y a consacré sa vie et son énergie. Il a été traité très injustement, on ne peut pas être pénalisé pour avoir été un patriote. Ce jour-là, Donald Trump avait donc acheté une Tesla rouge modèle S, payée comptant et sans ristourne, promettait la Maison-Blanche. C'est cette même voiture, selon un responsable resté anonyme, que le président a décidé de vendre, lui qui après tout assurait en 2023 qu'un véhicule que l'on devait brancher pouvait bien brûler en enfer. Symbole de la proximité entre les deux hommes, cette Tesla pourrait bien devenir la première victime collatérale de leur brouille. Un coup dur pour la marque qui s'est déjà aliéné les progressistes et risque aussi de voir les électeurs trumpistes lui tourner le dos. New York, Le Clory, France Inter.
La page des sports, on avait parlé d'un match de rêve à Roland-Garros avant la finale dames. Et bien ce match a tenu toutes ses promesses cet après-midi. 2h38 de haute lutte entre la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka, et sa dauphine, l'américaine Coco Gauff. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct de Roland-Garros. Au final, c'est donc la numéro 2, l'américaine Coco Gauff, 21 ans, qui remporte le match en 3-7. C'est sa première victoire à Roland-Garros.
Oui, un premier succès qu'elle est allée chercher au mental, distancée dans le premier set, rapidement menée 4 jeux à 1. La jeune américaine n'a pas pu éviter la perte de la première manche, mais lors des deux suivantes, elle a réussi à revenir dans le match, à dépasser la Biélorusse, qu'elle a éteinte à la fois du point de vue tennistique que psychologique. La numéro 1 mondiale a commis beaucoup de fautes directes et montré des signes d'énervement, un état qui ne lui a pas permis de contenir le retour de l'américaine, qui s'est écroulée en pleurs après la balle de match. Coco Gauff avait un souvenir douloureux de sa première finale à Roland-Garros, perdue il y a 3 ans face à Iga Swiatek. Cette fois, elle peut être fière de cette victoire qu'elle est allée chercher avec beaucoup de maîtrise, sachant aussi profiter des moments clés pour faire déjouer son adversaire. La numéro 2 mondiale qui met au tapis la numéro 1 sur la terre de Roland-Garros en finale. L'inverse s'était passé il y a 12 ans lors du duel entre Serena Williams et Maria Sharapova. Alors à 27 ans, Arina Sabalenka ne gagnera pas son 4e titre du Grand Chelem après ses 2 Open d'Australie et son US Open, et Coco Gauff à 21 emporte son 2e tournoi majeur après l'US Open en 2023.
Et Jean-Pierre Blimeau en direct de Roland-Garros. Et dans le tableau masculin, demain la finale opposera là encore les numéros 1 et 2 mondiaux, l'Italien Yannick Sinner opposé l'Espagnol Carlos Alcaraz. Amélie Oudéa-Castéra sera donc finalement seule en lice le 19 juin pour l'élection de la présidence à la présidence du Comité Olympique Français. Son adversaire Didier Séminet s'étant finalement retiré. La candidature d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports durant 2 ans jusqu'à l'an dernier, candidature qui avait été mise en cause par ses opposants qui s'interrogeaient sur un potentiel conflit d'intérêts dû à ses anciennes fonctions. Nous partons à Marseille pour terminer ce journal. Marseille pour que la mode soit plus responsable avec une démarche de circuit court. C'est la première Slow Fashion Week de Marseille. Elle s'est ouverte aujourd'hui avec des dizaines de créateurs qui s'inscrivent donc dans une démarche de création locale à base de tissus recyclés ou de produits de manière éthique. La Slow Fashion Week de Marseille va durer 1 semaine pour que la mode d'aujourd'hui donc n'abîme plus la planète. Clémentine Sabrier.
Le tissu glisse sous l'aiguille de la machine à coudre, guidé par les doigts de Valentine, sous l'œil expert de Charlotte Labigne, fondatrice de la marque Marge.
Alors cette pièce, ça va être un des pantalons de la nouvelle collection que je vais présenter le vendredi 13.
La créatrice est également coprésidente du collectif Baga, qui organise cette Slow Fashion Week.
Valentine, qui est en stage chez moi en couture, est en train de le terminer en faisant l'ourlet.
On a un pantalon avec donc tissu gris, petit carreau fin blanc.
En fait, ça vient d'un grand groupe de maisons de luxe qui s'appelle LVMH.
Il y a aussi beaucoup de tissus verts très flashy, synthétiques, qui bien souvent ne se recyclent pas.
Je préfère utiliser des matières synthétiques qui sont disponibles plutôt que d'en créer de la neuve qui soit bio. En fait, l'impact le plus faible, c'est d'utiliser l'existant.
Comme Jade Tequil et sa robe fabriquée à partir de 10 shorts de sport.
Je viens plisser, donner une nouvelle vie à cette matière-là et créer quelque chose de complètement différent.
Une robe bientôt portée sur un podium, mais Chloé Rock, responsable de la communication de l'événement, rappelle qu'il n'y aura pas que des défilés.
Des conférences pour comprendre les mécanismes graphismes qui font la mode d'aujourd'hui. Et puis également des ateliers qui sont souvent gratuits également pour apprendre à coudre, à créer des bijoux, à faire de la maroquinerie, etc.
Des événements pour placer Marseille sur la carte de la mode éco-responsable.
La Slow Fashion Week de Marseille jusqu'à samedi prochain. Et je précise que Marseille abrite également la première école de mode éco-responsable de France. Et puis toujours à propos de respect de l'environnement et des océans en particulier, nous sommes à 2 jours de l'ouverture à Nice de la conférence de l'ONU sur les océans. La finance internationale a commencé à se réunir aujourd'hui à Monaco. Il s'agit de lever des fonds pour exploiter les ressources marines tout en préservant ce milieu bien fragile. Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui dans la principauté de Monaco pour une visite de 48 heures, ce qui n'était pas arrivé d'ailleurs pour un président français depuis 41 ans. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain, on va échanger nos parapluies contre nos lunettes de soleil. Bonne nouvelle.
Oui, bonne nouvelle. Alors même si les pluies étaient vraiment les bienvenues hein, sur la moitié nord, particulièrement sur les Hauts-de-France dont le printemps était très sec. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai, on va ressortir nos lunettes de soleil parce qu'il sera de retour partout. Alors demain matin, on aura encore quelques averses sur le nord-est ou sur les Pyrénées. Mais déjà partout ailleurs, ce sera un temps sec et une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'après-midi, on aura toujours ces passages nuageux au nord de la Loire, mais grand soleil partout ailleurs, avec un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône.
Et pour les températures, ce sera parfois un peu frais le matin sur la moitié nord.
Oui, surtout entre la Bretagne et la Normandie où on atteindra péniblement les 10 degrés. Pour les autres, on ira de 11 à 19 degrés du nord au sud. Et puis l'après-midi, la moyenne sera stationnaire sur la moitié nord, 16 à 21 degrés. Plus chaud au sud, 20 à 25, avec des pointes à 31 degrés près de la Méditerranée.
C'était les prévisions de Céline Dacosta.
France Inter, 11h, François-Régis Gaudry.
Ce dimanche, la fraise. Son histoire, sa culture, ses variétés, ses recettes emblématiques. On vous dit tout sur l'un des fruits préférés des Français.
On va déguster tous les dimanches à 11h sur France Inter.